Urbanité sonore en mouvement, bah, pourquoi? Parce que le mouvement est associé à toute perception et donc bien difficile d'en faire abstraction. Et puis d'autre part, ça exprime aussi l'idée que le monde urbain, lui, est aussi un monde en mutation, en mouvement, et qu'il faut être attentif à ces choses-là. L'intervention que je ferai portera plutôt sur l'idée de comment on peut effectivement analyser, qualifier, concevoir des espaces du son et quelles pistes peuvent se dégager. Alors à partir d'un ensemble de travaux, hein, puis qui sont un peu différents, de types différents, d'analyse ou d'expérimentation ou autre. Voilà, alors voilà les terrains qu'on a choisis. Moi j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, sur Grenoble, quels sont les éléments qui finalement peuvent poser question en termes d'expérimentation du son dans le mouvement, donc dans le passage, on peut dire ça comme ça. Et en fait, on a choisi deux types de terrains où le rapport à l'habitat est très, très, très fort, et en même temps où les morphologies proposées étaient assez innovantes, enfin, à l'époque où elles ont été faites, dans les années 70, fin des années 70. Le premier, c'est ce site qu'on voit ici en photo aérienne, qui n'est pas très loin d'ici, ça s'appelle les terrasses de Renaudy, qui a la particularité d'organiser toute une série de passages, de terrasses, de liaisons, passages au-dessus d'une voie, de dénivelé, de regard et d'écoute entre des parties jardinées ou domestiques liées aux habitations, et qui en même temps relie deux parties séparées par cette. Voilà. Donc, ensuite, nous avons l'opportunité d'avoir une des personnes qui habite le lieu, donc qui permet d'avoir aussi des liens de connaissances plus intimes, on va dire, plus proches des choses, et peut-être donc il nous guidera un peu sur le travail de connaissance, d'analyse, en même temps de projection, je ne sais pas, ce qui peut être fait dans ces différents interstices là, qui constituent ce tissu très particulier. Donc c'est une trame, hein, d'habitation qui est basée sur des angles à 30 degrés pour beaucoup d'endroits, c'est ce qu'on appelle la trame en étoile. Et en fait, en même temps que ça désigne un intérieur assez particulier, la volonté de travailler sur des grandes terrasses d'extension du logement vers l'extérieur est très importante. Elle pose d'ailleurs beaucoup de questions en termes de coûts d'entretien, d'usage, de cloisonnement, bref, de tout un tas de choses qui viennent aujourd'hui. Et par ailleurs, il se trouve aussi que on est dans un habitat social. Il y a des histoires, mais voilà, comme tout lieu, ça fait partie des choses. Et ça se relie à un parc, ici, en lisière. Donc, quel type de... Voilà, c'est un premier type de traversée, disons, de passage. On a choisi essentiellement des lieux, effectivement, où il y a des dimensions couvertes, découvertes. Pourquoi ? Parce que, précisément, on va le voir du point de vue... acoustique, les lieux couverts ont quand même un comportement particulier, presque par le fait qu'ils ne donnent pas sur le ciel, ils ne donnent pas sur une partie, on va dire, absorbante, hein, qui est le ciel. Et on a essayé de prendre, sauf un cas, mais justement, on va voir s'il faut le couvrir ou pas, de passages où il y a des parties couvertes. Parce que c'est... alors d'ailleurs ici, vous avez aussi toute une rue en portique, en arcade, sous... on peut dire couverte. Hein, le portique fait partie de ces passages couverts, semi-couverts, demi-couverts. Et souvent les entrées au logement sont aussi couvertes par une avancée ou des choses comme ça. Donc voilà. Comment, du point de vue sonore, cette nouvelle une configuration qui s'opposait mais alors complètement à toute l'idéologie des bars et des tours de l'époque. C'est un architecte qui revendiquait cette position-là, qui s'opposait à l'idée de la ville, on va dire, code-barre, et qui revendiquait une certaine organicité de l'espace, une certaine circonvolution, angle, cheminement, passage, un ensemble de dispositifs qui s'opposait complètement à l'idée principale qui était de dégager le sol et d'en faire une unité relativement étendue et disponible. Le plan ne dit rien, c'est le plan open map, on ne voit pas grand chose, la photo aérienne est beaucoup plus intéressante en termes de texture, on va dire, des lieux, et donc, parce que là c'est...
Est-ce que le lieu est classé ?
Les ?
Est-ce que le lieu est classé ?
De mémoire, je ne pense pas. C'était un gros problème d'entretien, parce que les terrasses sont très grandes, le bailleur social ne peut pas les prendre en charge, et les habitants qui sont là, on va dire propriétaires, c'est des coûts aussi très élevés, donc c'est un gros problème. C'est une générosité de proposition, mais qui a du mal à tenir dans le temps, enfin ça fait quand même déjà 40 ans, hein. 50 ans même. Donc non, c'est pas classé, même... Oui, alors vous avez le même modèle à Ivry et à Givors. Sauf qu'à Givors, c'est sur une colline, parce que son idée initiale, c'était de grimper sur la colline, et que là, il a fabriqué... Il y a une montée, effectivement, vous montez, mais c'est artificiel, le site était rigoureusement plat et marécageux. Donc, mais il y a cette idée que ça s'empile aussi, et ça monte. Voilà. Donc il y a des... Alors, ça, c'est intéressant du point de vue sonore, vous avez des altimétries, des différences altimétries. Donc, c'est intéressant. L'altimétrie est un paramètre qui n'est pas inintéressant pour l'audition de quelque chose. On sait qu'il se passe quand même des choses différentes selon qu'on est sur un point haut ou un point bas. Bon. Là, c'est... Il y a des choses intéressantes par rapport à cette question-là. Donc, effectivement, c'était un modèle, on peut dire en tout cas un système de conception qu'il a appliqué à Évry et à Givors. Moi, j'ai visité celle de Givors aussi. Et donc, effectivement, ça s'arrime à une colline et ça vous conduit à la colline. Il y a des chemins qui se prolongent dans la colline, etc. Donc, on peut passer à travers. Inintéressant aussi, mais alors acoustiquement c'est très particulier, c'est assez intimiste comme lieu. Enfin, moi je ne vais pas donner mon point de vue, mais il y a quelque chose qui vous met beaucoup en relation à l'autre, quoi. Parce que tout est à proximité. Et donc justement, ça c'est une grande discussion de l'espace public. Est-ce que pour être public, un espace, on a besoin d'être anonyme. Mais oui, c'est-à-dire que... Mais ça, on en parlera après. On n'a pas besoin d'être nécessairement dans une communauté pour être dans un espace public. Au contraire, c'est ce que dit Richard Sennett quand il parle des tyrannies de l'intimité. Et il dit finalement, l'espace public, c'est là où il y a le plus d'obstacles et plus de barrières. Parce que ça permet justement de ne pas être toujours connu de l'autre. Donc bon, ça c'est... Et le son, alors là, le son a une importance... énorme, parce que si vous comprenez, vous entendez tout ce que dit l'autre, vous êtes dans sa sphère de l'intime. Alors que s'il y a une barrière phonique, vous l'entendez, mais vous ne le comprenez pas. Hein. C'est comme certaines places de centre-ville. Vous êtes à la limite entre ce qu'on appelle, l'ambiance, qui a des liens, mais sans qu'ils se formalisent directement dans la compréhension, l'intelligibilité, etc. Et là, justement, des lieux qui intimisent fortement les relations. Parce qu'il n'y a pas de bruit de ce qu'on appelle, nous, on appellerait ça un bruit de masque. Ou en tout cas, quelque chose qui met à distance un peu. Quoi. Voilà, qui permet d'être au contact de l'autre sans être complètement au contact de l'autre. Voilà, ça, c'est des questions, alors vraiment, que j'avais abordées dans tous les travaux qu'on a fait sur les espaces publics. Où les espaces publics, effectivement, le son est une dimension extrêmement importante là dans la gestion de ces relations, de ces liens sociaux.
Là, c'est plus dû au matériau, non ? Je sais pas, le béton, ou alors à la forme et...
C'est dû essentiellement, on pourra revenir là-dessus, mais c'est dû au rapport entre ce qu'on peut appeler le bruit de fond urbain et puis les émergences. C'est-à-dire, si vous parlez dans un lieu et qu'il n'y a absolument pas de bruit de fond, il n'y a pas de masque, vous êtes entendu à la ronde très très loin. Hein. Bah là, le bruit de fond n'est pas très important, la densité des événements n'est pas très importante. Et les parois, les proximités des parois, on verra aussi, fait que ça se réfléchit bien. Hein. Donc ça forme quelque chose d'assez, on peut dire, oui, intimiste, à l'image d'ailleurs de configuration spatiale de même type de grandeur. Là, effectivement, il y a des raisons aussi bien acoustiques que, qui relèvent du bâtiment, de la situation sonore proprement dite. C'est-à-dire, en fait, on échappe du bruit de fond parce que, ben, il n'y a pas de voiture, c'est piéton, c'est totalement accessible aux piétons, mais pas à la voiture. Donc, il y a la fabrication d'un environnement particulier, mais qui devient extrêmement, on va dire, transparent acoustiquement. On dirait ça comme ça. Transparent, parce qu'il n'y a pas de barrière de distance possible. Aller dans certains lieux, c'est, je sais pas, vous allez sur une place centrale en ville, 4-5 mètres, vous n'entendez plus ce que disent les gens. Vous l'entendez, mais vous ne comprenez pas. Donc ça, c'est la différence entre l'anonymat sonore et puis la transparence.
Moi, je l'ai visité aussi et j'ai un souvenir de résonance. Oui. Ça résonne.
Oui. D'ailleurs, ça fait partie de nos thèmes, de notre travail.
On entend aussi le bruit de la ville et comme c'est un espace assez biscornu, imbriqué, ça se réfléchit, je ne sais pas où, et on n'entend pas d'où ça vient.
Alors, c'est de l'ubiquité, ouais. Ouais. Un effet d'ubiquité. Vous l'avez dans la définition, je pense, des effets qui sont là. Vous n'arrivez pas à localiser d'où vient le son. Alors, la différence des angles, les parois, etc., peut faire effectivement que ça se réfléchit dans toutes les directions. Ça, c'est une chose. Le fait que la rue qui est encastrée en bas, là, ça se réfléchit sur les parois, ça monte, on ne sait pas bien comment. Et puis on n'a pas de visibilité. Donc voilà, il y a un ensemble de facteurs qui font que ça produit effectivement ces effets-là. Alors, est-ce qu'il faut les combattre? Non, j'en sais rien. Il ne s'agit pas de le faire avec. Je veux dire, moi, je pense que par exemple, les relations entre les logements et l'extérieur, les frontières, les seuils, justement, d'accès, les différences. Peut-être qu'il y a des choses un petit peu à affiner pour ne pas avoir un jugement global de ces dispositifs. Et puis les potentialités aussi en termes peut-être traitement. Alors là, on parle plus peut-être d'acoustique, mais après on va voir qu'on parle d'autre chose. Hein. Le traitement de sol, ça peut être des parois, ça peut être des volumes, ça peut être introduction de certaines sonorités, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que on peut passer d'un type de configuration comme celle-ci à d'autres configurations. Est-ce que c'est quelque chose qui on pourrait imaginer, mais avec d'autres dimensionnements, etc. Donc voilà, ça c'est le premier terrain. Le second, il est juste devant vous, derrière vous plutôt, ou à côté. C'est encore une réalisation. Grenoble a innové en créant cette ville neuve au milieu de nulle part, au sud de son origine, sur un terrain qui était en fait un terrain d'un aérodrome. Et évidemment, on s'intéresse à Villeneuve d'abord, c'est pas parce que c'est à côté, mais parce que c'est une grande utopie urbaine, réalisée avec tout son système de rues couvertes, justement, de galeries. En même temps que de dispositifs de grandes qu'on appelle des criques, alors je ne sais pas si c'est le nom officiel. Vous voyez des formes un peu un demi-hexagone avec des caractéristiques sonores très particulières, un habitat quand même de hauteur nettement plus importante que le précédent, donc des balcons qui donnent sur ces situations-là, des espaces de parc importants. Et des passages multiples, variés, alors aussi bien en altimétrie qu'en couvert-découvert, qui font véritablement l'expérience des cheminements entre, que ce soit dans l'espace public lui-même ou entre d'ailleurs l'habitation et l'espace public. Alors comment on passe de l'espace public à l'habitation? On pourrait se poser la même question sur Renaudy. Hein, le passage entre espace public et habitation, c'est quand même un des points aussi délicats. Ici, la galerie de l'Arlequin, l'idée c'était que les ascenseurs tombent directement dans la galerie. Quoi. C'est-à-dire que vous passez de l'appartement à la galerie, enfin je ne sais plus si c'est encore comme ça, mais je crois que c'est encore comme ça, vous descendez directement dans la galerie et vous accédez à la rue publique. Ce n'est pas l'ascenseur qui arrive dans un espace intermédiaire qui va donner dans la rue, etc. Non, c'est direct. C'est-à-dire que voilà, ça change. Relation, la galerie devient effectivement d'abord un milieu complètement protégé pour le piéton. Là aussi, il n'y a pas les voitures, il n'y a pas de. Encore une fois, c'est un espace voilà qu'on a voulu mettre à part de la voiture. Donc la voiture étant considérée comme la nuisance majeure en termes de bruit. Donc en sécurité dans un espace propre, on va dire ça comme ça, comme on fait des sites de transport en site propre. Et avec des. Alors, ce qui est intéressant, des dispositifs. Il y a une place de marché ici, quelques parcs. Donc, des tonalités, on peut dire ça. On a fait pas mal de boulot hein, là-dessus. Ben, le travail de Jean-François Augoyard portait notamment sur pas à pas les cheminements dans la galerie de l'Arlequin. Et puis, il y a eu plusieurs. Travaux, quand on avait travaillé sur l'existant, je crois qu'on avait fait une espèce d'approche particulière, donc on avait déjà regardé un petit peu ça. Après, il y a eu encore d'autres travaux en vidéo, en son. Donc, c'est un terrain d'expérimentation tout à fait intéressant, puis que Julien connaît bien, je crois. Il habite. Voilà. On a des habitants dans les deux lieux. On a un habitant à Renaudy et un habitant à Villeneuve. Donc, ça peut voilà, permettre aussi. Regarder les choses avec plus d'épaisseur que l'immédiateté de ce qu'on observe, ça c'est important. Enfin, je veux dire par là que d'accéder à des vécus, à des histoires, à des choses comme ça. Pour imaginer peut-être qu'elle serait. Alors moi je sais pas, c'est à vous là de d'avoir des perspectives. Hein. Moi on peut tout imaginer. Toujours est-il qu'on se fonde sur je sais plus ce que je fais là. Donc vous voyez, la photo aérienne en dit aussi plus sur justement sur cette volonté d'articuler avec beaucoup de guillemets la nature, parce que c'est pas ça, mais disons le parc et l'habitat et puis la ville, une vision quand même assez fonctionnelle de séparation, les voitures stockées, le parc déployé, intouchable, et puis la vie de l'habitant. Dans le réseau des galeries et des hauteurs qui surplombent soit d'un côté soit de l'autre les éléments. Donc nous sommes ici, vous voyez, on peut emprunter la galerie à partir de là. Et c'est ce qu'on fera cet après-midi, ça tombe bien là, voilà, pour voir justement toutes ces opportunités de couvert, découvert, de franchissement, de passage qui font. Voilà, une expérience assez entre minérale et végétale aussi, assez mixte. Donc on a. Et puis des usages on peut dire que ça constitue un quartier, puisqu'il y a quand même encore des commerces et des choses comme ça. Il y en a beaucoup, certes. Mais bon, un marché, il y a des choses. Donc c'est pas un petit peu différent de Renaudy par rapport justement à cette dimension publique, je trouve. La dimension publique à Renaudy, c'est quand même. L'exemple précédent, c'est assez intimiste. La Villeneuve, je ne saurais pas comment dire. Elle l'est peut-être moins, je ne sais pas. Voilà, plus ouvert, très ventilé en tout cas. Donc là, les passages, ces articulations, ces limites, ces passages qu'on veut un petit peu appréhender. Alors pourquoi cette thématique-là aussi? C'est parce qu'on se dit, moi je me dis. Voilà ce qui est important dans l'expérience sensible de la ville, c'est ses différences, c'est de pouvoir peut-être parfois choisir son environnement, c'est d'avoir peut-être accès à des différences, parce que quand c'est assez uniforme, on va le voir, c'est quand même un peu problématique, que ces variations d'ambiance, on peut dire ça comme ça, ces variations d'ambiance, elles sont justement... suffisamment déterminante pour qu'on s'intéresse aux limites, aux seuils, aux passages, à ces expériences dans le temps et dans l'espace, en mouvement, et de l'appréhension de différence.
Ouais, bah oui.
Tout simplement. D'ailleurs, je me disais, bon, si ça intéresse certains, de l'autre côté, autre phase d'urbanisation, alors vous voyez des îlots beaucoup plus sages, mais dans lesquels on peut plus ou moins cheminer, traverser avec des configurations spatiales complètement différentes. Classiques, on va dire, c'est les villes en îlots, avec certains, d'ailleurs, îlots fermés, résidentialisés, comme on dit aujourd'hui, d'autres ouverts. Mais le passage entre les deux environnements illustre assez cette différence de culture, on va dire, urbaine, entre la partie qui était constituée en îlots, elle est relativement étroite. Réintroduction de la voiture, d'ailleurs. Réintroduction de la voiture dans la rue. Alors qu'ici, on est lieu privilégié, piéton, pas de voiture, côté. Et donc des parties... couverte et beaucoup d'espaces collectifs non résidentialisés jusqu'à maintenant.
La voiture peut accéder à côté des bars. C'est le village olympique, c'est ce qu'il y a à côté.
Village olympique, non, ça c'est pas le village olympique.
Ça
c'est Vigny Musset.
Ah d'accord. Village olympique,
c'est plus bas là. C'est par là. Voilà, c'est la ville de Grenoble, c'est constitué, pour ceux qui ne sont pas d'ici, c'est vrai, au moment des Jeux Olympiques, il y a eu une conquête des territoires du Sud, et ça a commencé par le village olympique, hein, et puis la ville, et puis le musée, et donc ça s'est urbanisé fortement dans tout ce secteur. Mais c'est les Jeux Olympiques qui ont initié l'équipement, notamment les voiries et tout ça. Alors ensuite, bon, ça c'est les deux terrains liés à l'habitat. Mais bon, il y a pas que l'habitat. L'idée de travailler aussi sur des sites alors plus liés au monde du transport, ici en l'occurrence la gare, parce que la gare... Alors un petit souci, c'est qu'il y a des travaux actuellement. Ah, ça c'est pas bon. Hein. Quand on fait une étude, que ce soit en travaux à côté, bon, c'est une difficulté méthodologique. Parfois... voilà, vous faites un travail et puis c'est en travaux. Mais en fait, on se rend compte d'ailleurs que la ville est souvent en travaux, ça bouge. Ce n'est pas quelque chose d'aussi fixe qu'on prétend. On a choisi ce passage ici qui est en fait souterrain, sous les voies, mais qui n'est pas emprunté que pour prendre le train. Parce que les gens qui veulent passer du quartier de ce côté-là à l'autre côté, ben, ils passent par là. D'ailleurs, ils passent en vélo, il y a un panneau interdit au vélo, mais il y a des vélos qui passent, à pied. Et alors, il y a un espèce de mixage entre l'usage pour la gare et l'usage pour le quartier. C'est un passage comme on en connaît, des passages souterrains tout à fait ordinaires, avec des proportions dont d'ailleurs on regardera. Ces proportions ont quelque chose à dire par rapport à la résonance, la longueur aussi de jonction, et débouche sur un espace étrange. Une espèce de vide qui nous fait encore passer sous quelque chose. Et si on se prolonge un peu ici, vous avez une petite opération d'habitat qui n'est pas inintéressante parce qu'on peut passer à travers. Donc voilà, il y a un cheminement en termes phoniques et ambiental qui... c'est pas inintéressant parce qu'en fait ça illustre assez bien les passages couverts, découverts, recouverts, entre, avec ici des escaliers d'accès au logement qui sont pas inintéressants parce que ça se déverse dans l'espace public et il y a des usages de proximité entre disons la façade des habitations du fait de ces escaliers, un petit peu comme on voit dans les rues dans les rues avec des escaliers quoi, c'est pas inintéressant. Donc mixage un peu de différentes perceptions et pratiques d'un passage qui est bien évidemment connu, mais qui est un des rares qui permet de passer effectivement de ce quartier à ce quartier-là. Sinon, c'était un peu l'idée, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire passer sous les voies? Alors, d'autant plus qu'on a des événements phoniques quand même assez presque vibratoires, phoniques et vibratoires, là. C'est quand un train passe au-dessus. bon, tout est quand même sensible. Vous avez des fréquences graves et aussi presque un sentiment de vibration. Donc c'est intéressant de se dire finalement cette voie là, SNCF. Avec ces passages de train ici, il y a un autre passage piéton et vélo et tramway d'ailleurs, qui nous fait passer sous les voies. Donc là aussi, des espaces un peu compliqués, on peut dire, en termes, mais qui sont contemporains hein, de la ville actuelle, et qui produisent des formes d'expérience particulières. Voilà. Avec un univers qui se rattache. Bah, la grande dimension du transport et la. Le trafic quotidien entre les choses. D'autant plus que, bon, peut-être pas ici à Grenoble, mais dans à côté des gares se multiplient des services, des ventes, des petites choses. Et il y a tout un ensemble d'usages qui est quand même assez spécifique voilà, à ce monde de la gare et à ce monde du transport et qui n'est pas inintéressant. Quoi. Les gens sont équipés, les valises à roulettes, il y a un ensemble d'événements. De matière, alors là qui fait vraiment, on peut dire, espace public, c'est l'espace public de la véritablement du passage, quoi, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'habitat au sens propre, mais que du passage. Quoi. Donc ça, c'est le troisième site, donc pas lié à l'habitat, mais plutôt au transport, au voyage, enfin bref, et en même temps qu'il y a un rapport au quotidien par rapport au quartier. Ensuite, je m'intéressais à un autre type d'articulation dans des milieux urbains qui sont couvertes. Et donc, si on faisait le répertoire de toutes les parties couvertes de la ville à Grenoble, en fait, il y en a quelques-unes quand même. C'est pas inintéressant, c'est marrant de voir. Finalement, c'est traverses un petit peu secondaires. Bon, à Lyon, on appelle ça des traboules, je sais pas, mais elles sont pas forcément couvertes. Hein. Mais qui font des cheminements secondaires, on va dire, hein, qui sont un petit peu cachés, dans lesquels il y a... Enfin, qui sont connus, hein, ils ont un nom. Beaucoup d'entre eux sont fermés, d'ailleurs, actuellement. Beaucoup de ces passages sont fermés. J'ai justement, en faisant un petit peu moi-même le catalogue, je peux dire, bah tiens, celui-là, il est fermé. Le passage dont on va pour aller à la cinémathèque, il a été fermé par trois grilles. Un autre passage, j'ai vu, a été fermé. Un troisième. Donc, beaucoup de ces passages sont clôturés. Bon, bah, celui-là ne l'est pas. Et en fait, il relie... alors, il est intéressant, c'est une des rares opérations des années 60, assez... Enfin, c'est une barre, donc, en plein centre, avec un portique couvert qui donne de ce côté, du côté de la maison du tourisme, hein, qui mérite le détour. Et... les années 60, aux Jeux Olympiques aussi, hein. Et en fait, il y a donc là une partie couverte, donc vraiment pour un truc. Et vraiment le passage dans toute sa splendeur, avec des commerces qui donnent dessus quand même, donc qui redonnent un petit peu cette idée du passage urbain du 19e siècle, qui était créé à Paris, tout le livre de Walter Benjamin sur les passages, donc, qui vous raconte toute la vie des passages, et cette dimension de commerce qui viennent, on va se promener à l'abri pour aller trouver des services et des commerces. Donc là, il y en a quelques-uns, même des bureaux qui donnent son passage. Donc y a une... Mais alors, ça nous relie, ce qui est intéressant, à un réseau de petites rues là. On voit mieux sur la photo aérienne. Une partie en jardin derrière, qui est une cour intérieure. Végétation. On passe là sous des sky domes. Donc il n'y a pas d'immeuble au-dessus, donc on peut imaginer des choses en termes de reformation du plafond, hein, bon bref, éventuellement. Et en fait, vous arrivez ici dans la place Sainte-Claire, qui est le marché, donc évidemment un événement sonore particulier qui s'installe tout autour et puis dans la halle. Et puis même si vous prolongez votre promenade, vous pouvez passer à travers ici, un passage, une cour, un autre passage, et vous retrouvez de l'autre côté. Donc. Voilà, tout un espèce de cheminement un peu à part, un peu secret, un peu secondaire, mais existant. Quoi. Voilà. Qui n'est pas inintéressant, qui Alors, c'est une hauteur sous plafond, mais ça justement, on regardera un peu, quoi, finalement, la configuration spatiale, l'usage du lieu, même d'autres aspects, hein, lumineux ou qui constituent son ambiance, et plus particulièrement, évidemment, son acoustique, mais aussi sa vie sonore, on peut dire, hein, les choses comme ça. Il n'est pas excessivement emprunté, mais peut-être que justement, imaginer quelque chose qui soit lui le transforme, soit lui donne une autre perception. Ou au contraire, le laisse tel qu'il est, parce que finalement, tout va très bien. Donc voilà, ça c'est un passage d'environ 50 mètres qui est couvert. Vous savez, on a choisi aussi des lieux couverts pour la bonne et simple raison que s'il pleut, eh bien, voilà. Et s'il vente, ce qui peut arriver, par contre, les passages sont propices au courant d'air. Qui n'est pas toujours très bon pour les preneurs de son, mais qui est une caractéristique ambientale qui fait partie de ces milieux, donc de ces tuyaux, ces espèces de resserrements, puisque ce sont des resserrements de l'espace. Voilà, le dernier, c'est pas proprement parler un passage, c'est un franchissement, et je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse évoquer finalement la ville qu'on a sous la main sans aborder des questions plus voilà, courantes qu'on trouve dans de multiples villes, qui sont ces franchissements, passerelles, piétonnes, d'infrastructures, alors comme on travaille beaucoup dessus en ce moment, autour des infrastructures, les jardins et tout ça, c'est vrai qu'il y a aussi on a une petite connaissance autour de ça, mais qui est en fait une passerelle qui franchit la rocade sud et qui relie un petit parc tout à fait ici. Et on voit le cheminement, on passe pas loin des habitations, on monte, on va, on descend soit par la rampe, alors c'est vélo ou piéton, mais donc vous franchissez la voie ferrée et les quatre voies de cette rocade qui supporte un trafic de 100 000 véhicules par jour. Donc 100 000 véhicules par jour, c'est très beaucoup, comme disent les enfants. Et donc c'est un des axes majeurs de contournement de Grenoble par le sud. Mais les seules liaisons qui existent, si vous ne prenez pas la voiture, c'est les ponts, mais il y a des voitures dessus, et c'est cette passerelle qui est dédiée aux piétons. Donc là aussi, on peut se poser la question d'expérience sonore de ce type de franchissement. D'abord, par la confrontation, évidemment, au flux de la voiture, mais bon, est-ce que c'est... je sais, ça peut faire bondir, mais il y a peut-être des qualités propres à ça, je ne sais pas. Et puis, d'autre part, bon, en termes de... d'usage, de morphologie, c'est là où l'association entre les différentes disciplines peut être intéressante, moi je pense, en termes d'expérience sonore, de morphologique, d'usage des lieux, et puis donc d'essayer de voir ce que ce type d'expérience est, de quoi elle est faite, et de quoi elle pourrait être éventuellement là aussi requalifiée ou réordonnée. Voilà. Donc voilà les cinq, je ne sais plus s'il y en a cinq, mais c'est ça, oui, trois et deux, cinq situations, vous voyez, deux situations plutôt liées à l'habitat, deux situations plutôt liées au mode du transport, enfin on peut le dire, hein, que ce soit la gare ou la route, puis ben, une situation un peu hybride, le passage entre les deux. Donc pour ceux qui s'intéressent plus à la dimension publique, espace public, installation, je ne sais pas, modification, ou ceux qui s'intéressent plus à l'usage, à l'enquête, à la manière de finalement de connaître un lieu à travers le son, ou pour ceux qui sont plus penchés sur l'interaction entre morphologie architecturale, urbaine, transition entre espace dedans, dehors, dans l'habitat, voilà, ça offre des possibilités d'interrogation assez différentes, Et c'est ça qui compte, c'est qu'on puisse les avoir à partir de ces exemples, donc qui tous illustrent effectivement l'articulation entre des choses, quoi. Voilà.